Germaine de Staël, Delphine, partie 5.
Lettre 1 à 7 comprise. Madame Dervin à Delphine. Du couvent de Sainte-Marie à Chaillot, ce 8 décembre 1791. Partout où vous emmènerez Isaure avec vous, ma chère Delphine, je me croirai certaine de son bonheur. Je vous l'ai donné. Je la suis de mes voeux. Dites-lui de penser à moi comme à une mère qui n'est plus, mais dont les prières implorent la protection du Tout-Puissant pour sa fille. Vous me dites que vos chagrins vous ont inspiré le désir d'embrasser le même état que moi. Je m'applaudis chaque jour du parti que j'ai pris, et je ne puis m'empêcher de désirer que vous suiviez mon exemple. Vous craignez, me dites-vous, que votre manière de penser ne s'accorde mal avec les dispositions qu'il faut apporter dans notre saint asile. Vos opinions changeront, ma chère amie. Au milieu du monde, tous les raisonnements qu'on entend égarent les meilleurs esprits. Quand vous serez entourée de personnes respectables, toutes pénétrées de la même foi, vous perdrez chaque jour davantage le besoin et le goût d'examiner ce qu'il faut admettre de confiance pour vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Je serais fâchée que des motifs purement humains vous décidassent à prononcer des vœux qui doivent être inspirés par la ferveur de la dévotion. Cependant, je vous dirai que le genre de vie que je mène me serait doux, indépendamment même des grandes idées qui en sont le but. La régularité des occupations, le calme profond qui règne autour de nous, la ressemblance parfaite de tous les jours entre eux causent d'abord quelque ennui. Mais à la longue, l'âme finit par prendre des habitudes. Les mêmes idées reviennent aux mêmes heures, les souvenirs douloureux s'effacent, parce que rien de nouveau ne réveille le cœur. Il s'endort sous un poids égal, sous une tristesse continue qui ne fait plus souffrir. Une pensée d'abord cruelle fortifie la raison avec le temps. C'est la certitude que la situation où l'on se trouve est irrévocable, qu'il n'y a plus rien à faire pour soi, que l'irrésolution n'a plus d'objet, que la nécessité se charge de tout. Vous éprouveriez, comme moi, ce qu'il peut y avoir de bon dans cette situation qui, selon l'heureuse expression d'une femme, apaise la vie quand il n'est plus temps d'en jouir. Je juge de votre cœur par le mien. Nous n'avons plus rien à espérer. Alors, mon ami, il vaut mieux s'en tirer d'objets plus sombres encore que son propre cœur. Quand il faut porter de la tristesse au milieu des gens heureux, ce contraste peut inspirer une sorte d'âpreté dans les sentiments qui finit par altérer le caractère. Je me permets de vous présenter ces considérations purement temporelles parce que je suis bien sûre que vous n'auriez pas passé un an dans un couvent sans embrasser avec conviction la religion qu'on y professe. Si les excès dont on nous menace en France finissent par rendre impossible d'y vivre en communauté, je me retirerai dans les pays étrangers. Peut-être pourrai-je vous rejoindre, retrouver ma fille avec vous. Non, je serai trop heureuse. Je n'expierai pas ainsi mes fautes. Mais qu'on a de peine à repousser les affections. Elle reste dans le cœur avec tant de force. Thérèse. Septième et dernier fragment des feuilles écrites par Delphine. Thérèse, que m'écrivez-vous? Je voudrais lui répondre, mais non, je ne pourrais lui dire ce que je pense, ce serait la troubler. Qu'y a-t-il de plus à ménager au monde qu'une âme sensible qui a retrouvé la paix? Jamais, lui aurais-je dit, jamais je ne croirais qu'on plaise à l'être suprême en s'arrachant à tous les devoirs de la vie pour se consacrer à la stérile contemplation de dogmes mystiques sans aucun rapport avec la morale. Si je m'enferme dans un couvent, ce sont les sentiments les plus profanes, c'est l'amour qui m'y conduira. Je veux qu'il sache que, condamné à ne plus le voir, je n'ai pu supporter la vie. Je veux l'attendrir profondément par mon malheur, et qu'il lui soit impossible d'oublier celle qui souffrira toujours. Les années qui refroidissent l'amour laissent subsister la pitié, et dût-il me revoir encore quand le temps aura flétri mon visage, le voile noir dont il sera couvert, les images sombres qui m'environneront, m'offriront à ses yeux comme l'ombre de moi-même, et non comme un objet moins digne d'être aimé. Thérèse, est-ce avec de telles pensées qu'il faut entrer dans votre sanctuaire? Je n'ai pas vos opinions, mais je les respecte assez pour répugner à les braver, pour craindre surtout de tromper ceux qui croient en ayant l'air d'adopter des sentiments que je ne partage pas. Mais si M. de Valorbe me poursuivait, si je craignais qu'il n'excitât encore la jalousie de Léonce, ou qu'il ne voulût menacer sa vie, je ne sais quel parti je prendrais. Ma raison n'a bientôt plus aucune force. J'ai peur d'un nouveau malheur. Je crains son impression sur moi. La folie, les vœux irrévocables, la mort, tout est possible à l'état où je suis quelquefois. À l'état plus cruel encore, où les peines qui me menacent pourraient me jeter. J'espérais trouver à Lausanne des lettres de ma sœur. Je lui avais dit de m'oublier, mais devrait-elle m'en croire? Ah, qu'il est facile de disparaître du monde et de mourir pour tout ce qui nous aimait. Quels sont les liens qu'on ne parvient pas à déchirer? Quels sont ceux qu'un effort de plus ne briserait pas? Ma sœur ne savait-elle pas que je n'espérais que d'elle quelques mots sur Léonce? Hélas, veut-elle me cacher que mon départ l'a détachée de moi? Quelle cruelle manière de ménager que le silence! Abandonner le malheureux à son imagination, est-ce donc avoir pitié de lui? Lettre 2. Mademoiselle d'Albémar à Delphine. Montpellier, ce 17 décembre. Je n'ai pas cru devoir vous cacher cette lettre. Il ne faut rien dissimuler à une âme telle que la vôtre. Il ne faut pas lui surprendre un sacrifice dont elle ignorerait l'étendue. Madame de Lébancet à Mademoiselle d'Albémar. Hélas, que me demandez-vous, mademoiselle? Vous voulez que je vous entretienne de l'état de Léonce? Je ne l'ai pas vu dans les premiers moments de sa douleur. M. Barton, qui s'était chargé de lui apprendre le départ de Delphine, m'a dit qu'il avait pendant quelques jours presque désespéré de sa raison. Son ressentiment contre elle prit d'abord le caractère le plus sombre, et néanmoins il formait pour la rejoindre les projets les plus insensés, les plus contraires aux principes qui servent habituellement de règles à sa conduite. Enfin, il a consenti à rester auprès de sa femme jusqu'à ce qu'elle fût accouchée. C'est tout ce qu'il a promis. La première fois que je l'ai vu, il y avait encore un trouble effrayant dans ses regards et dans ses expressions. Il voulait savoir en quel lieu Delphine s'était retirée. C'était le seul intérêt qui l'occupait. Et cependant, il s'arrêtait au milieu de ses questions pour se parler à lui-même. Ce qu'il disait alors était plein d'égarements et d'éloquence. Il faisait éprouver, tout à la fois, de la pitié et de la terreur. On aurait pu croire souvent que l'infortuné se rappelait quelques-unes des paroles de Delphine et qu'il aimait à se les prononcer, car sa manière habituelle était changée et ressemblait davantage au touchant enthousiasme de son ami qu'au langage ferme et contenu qui le caractérise. Il me conjurait de lui apprendre où il pourrait trouver Delphine. Il voulait paraître calme, dans l'espoir de mieux obtenir de moi ce qu'il désirait. Mais quand je l'assurais que je l'ignorais, il retombait dans ses rêveries. Cette nuit, disait-il, la rivière Grossie menaçait de nous submerger. En traversant le pont, J'entendais les flots qui mugissaient. Ils se brisaient avec violence contre les arches. S'ils avaient pu les enlever, je serais tombé dans l'abîme, et l'on n'aurait plus eu qu'un dernier mot à dire de moi à celle qui m'a quitté. Mais les dangers s'éloignent du malheureux. Il laisse tout à faire à sa volonté. Je suis rentré chez moi. L'on n'entendait plus aucun bruit. Le silence était profond. C'est dans une nuit aussi tranquille qu'on dit que même les mères qui ont perdu leur enfant cèdent enfin au sommeil. Et moi, je ne pouvais dormir. Je veillais et m'indignais de mon sort. Je reprenais quelquefois contre elles ces moments de fureur les plus amers de tous, puisqu'ils irritent contre ceux qu'on aime. Mais ce n'est pas elles qu'il faut accuser. Léonce me reprochait amèrement de lui avoir caché les résolutions de Delphine. Si j'avais su d'avance son dessein, me répétait-il, jamais elle ne l'aurait accompli. Delphine, l'amie de mon cœur, n'aurait pas résisté à mon désespoir. Il vous a fallu, je le pense, de cruels efforts pour la décider à me causer une telle douleur. Que lui avez-vous donc dit qui pût la persuader? Je voulais me justifier, mais il ne m'écoutait pas. Et reprenant l'idée qui le dominait, il s'écriait. Vous savez quelle est la retraite que Delphine a choisie. Vous le savez, et vous vous taisez. Quel cœur avez-vous reçu du ciel pour refuser de me le confier? C'est à elle aussi, je vous le jure, c'est à votre amie que vous faites du mal, en me cachant ce que je vous demande. Pouvez-vous croire, disait-il en me serrant les mains avec une ardeur inexprimable, pouvez-vous croire que si elle me revoyait, elle n'en serait pas heureuse? Je le sens, j'en suis sûre. Dans quelque lieu du monde qu'elle soit, elle m'appelle par ses regrets. Si j'arrivais, je n'étonnerais pas son cœur. Je répondrais peut-être à ses désirs secrets, à ce qu'elle combat mais qu'elle éprouve. En nous précipitant l'un vers l'autre, nos âmes seraient plus d'accord que jamais. Vous nous déchirez tous les deux. À qui faites-vous du bien par votre inflexibilité? Parlez au nom de l'amour qui vous rend heureuse. Parlez. Il m'eût été bien difficile, mademoiselle, de garder le silence si j'avais su le secret qu'il voulait découvrir. Mais M. de Lébancey ayant assuré que je l'ignorais, Léonce le crut enfin. À l'instant où cette conviction l'atteignit, il retomba dans le silence, et peu d'instants après, il partit. Il est revenu depuis assez souvent, mais pour quelques minutes et sans presque m'adresser la parole. Seulement ses regards, en entrant dans ma chambre, m'interrogeaient. Et si mes premières paroles portaient sur des sujets indifférents, certain que je n'avais rien à lui apprendre, il retombait dans son accablement accoutumé. Hier, cependant, j'obtins un peu plus de sa confiance, et s'y laissant aller, il me dit avec une tristesse qui m'a déchiré le cœur, « Vous voulez que je me console? Apprenez-moi donc ce que je puis faire qui n'aigrisse pas ma douleur. » J'ai voulu partager avec Madame de Mondeville ses occupations bienfaisantes. Ce matin, je suis entrée dans l'église des Invalides, je les ai vues en prière. La vieillesse, les maladies, les blessures, tous les désastres de l'humanité étaient rassemblés sous mes yeux. Eh bien, il y avait sur ces visages défigurés plus de calme que mon cœur n'en goûtera jamais. Où faut-il aller? Le spectacle du bonheur m'offense. Et quand je soulage le malheur, je suis poursuivie par l'idée amère que parmi les maux dont j'ai pitié, il n'en est point d'aussi cruel que les miens. Essayez, lui dis-je encore, des distractions du monde, recherchez la société. Ah, me répondit-il vivement avec une sorte d'orgueil qui le ranimait. Qui pourrait-on écouter après avoir connu Delphine? Dans la plupart des liaisons, l'esprit de l'homme est à peine compris par l'objet de leur amour. Souvent aussi, leur âme est seule dans ses sentiments les plus élevés. Mais l'heureuse amie de Delphine n'avait pas une pensée qu'il ne partageât avec elle, et la voix la plus douce et la plus tendre mêlait ses sons enchanteurs aux conversations les plus sérieuses. Ah, madame, continua Léonce, en s'abandonnant toujours plus à son émotion, où voulez-vous que je fuie son souvenir? Toutes les heures de ma vie me rappellent ses soins pour mon bonheur. Si je veux me livrer à l'étude, je me souviens de ses conseils, de l'intérêt éclairé qu'elle savait prendre au progrès de mon esprit. Elle s'unissait à tout, et tout maintenant me fait sentir son absence. Oh, son accent, son regard seulement, si je le rencontrais dans une autre femme, il me semble que je ne serais plus complètement malheureux. Mais rien, rien ne ressemble à Delphine. Je plains tout ce que je vois comme s'il devait s'affliger d'être séparé d'elle. Et moi, le plus malheureux des hommes, je me plains aussi, car je sais ce qu'il me faut de courage pour paraître encore ce que je suis à vos yeux, pour ne pas succomber, pour ne pas pousser des cris de désespoir, pour ne pas invoquer au hasard la commisération de celui qui me parle. Comme si tous les cœurs devaient avoir pitié de mon isolement. La douleur m'a domptée comme un misérable enfant. À peine pus-je entendre ces derniers mots que les sanglots étouffèrent. En ce moment, je blâmais le sacrifice de Delphine et Mathilde ne m'inspirait aucune pitié. Cependant, elle est devenue plus intéressante depuis le départ de Madame d'Albémare. Sa tendresse pour Léonce a donné de la douceur à son caractère. Elle ne parlait pas autrefois à Monsieur de Lépensée. Maintenant, elle consent assez souvent à le voir chez elle. Il y a 2 jours que, l'entendant nommer Madame d'Albémare, elle s'est approchée de lui et lui a dit avec vivacité « C'est une personne très généreuse que Madame d'Albémare. » Ces mots signifiaient beaucoup dans la manière habituelle de Mathilde. Quelques paroles échappées à Léonce me font craindre qu'il ne cède une fois à l'impulsion donnée à la noblesse française pour sortir de France et porter les armes contre son pays. Il n'est malheureusement que trop dans le caractère de M. de Mondeville d'être sensible au déshonneur factice qu'on veut attacher à rester en France. M. de Lébancet combat cette idée de toute la force de sa raison. Mais son moyen le plus puissant, c'est d'invoquer l'autorité de Delphine. Léonce se tait à ce nom. Ce qui me paraît certain pour le moment, sans pouvoir répondre de l'avenir, c'est que M. de Mondeville ne quittera point sa femme pendant sa grossesse. Ainsi, nous avons du temps pour prévenir de nouveaux malheurs. Voilà, mademoiselle, tout ce que j'ai recueilli qui puisse intéresser notre amie. C'est à vous à juger de ce qu'il faut lui dire ou lui cacher. Parlez-lui, du moins, de l'inaltérable attachement que M. de Lébancée et moi lui avons consacré. Et daignez agréer aussi, mademoiselle, l'hommage de nos sentiments. Élise de Lébancée. Je partage du fond de mon cœur, mon ami, l'émotion que cette lettre vous aura causée, mais je vous en conjure. Ne vous laissez pas ébranler dans vos généreuses résolutions. Puisque vous avez pu partir, attendez que le temps ait changé la nature de vos sentiments. Un jour, Léon sera votre ami, votre meilleur ami, et l'estime même que votre conduite lui aura inspirée consacrera son attachement pour vous. J'ai regretté d'abord vivement que vous eussiez pris le parti de ne pas me rejoindre. Mais à présent, je l'approuve. Léonce serait venu certainement ici s'il avait su que vous y fussiez. Et Monsieur de Valorbe n'aurait pas perdu un moment pour se rapprocher de vous et vous persécuter, peut-être d'une manière cruelle. Dérobez-vous donc, dans ce moment, aux dangereux sentiments que vos charmes ont inspirés. Mais songez que vous devez un jour vous réunir à moi. Et qu'il ne vous ait pas permis de vous séparer de celle qui n'a d'autre intérêt dans ce monde que son attachement pour vous. Lettre 3. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, Lausanne, ce 24 décembre. Que de larmes j'ai versées en lisant la lettre de Madame de Libancey. Cependant, ma chère Louise, elle m'a fait du bien. Je suis plus calme qu'avant de l'avoir reçue. J'ai été profondément touchée de cette ressemblance, de cette harmonie de sentiments et d'expressions que la même douleur a fait naître entre Léonce et moi. Ah, nos âmes avaient été créées l'une pour l'autre. Si nous différions quelquefois au milieu de la société, les fortes affections de l'âme, les cruelles peines de cœur font sur nous deux des impressions presque les mêmes. Enfin, il se soumet à ses devoirs. Le temps assouvira ses regrets sans m'effacer entièrement de son souvenir. Mathilde est heureuse. Ses pensées doivent être douces. Une fois peut-être, elles me rendront le repos. Si Monsieur de Valorbe ne s'acharne point à me le ravir. L'inquiétude la plus vive qui me reste, c'est que Léonce ne cède au désir de se mêler de la guerre si elle est déclarée. Mais comme il ne quittera sûrement pas sa femme pendant sa grossesse, ne peut-on pas espérer que, d'ici à quelques mois, il arrivera des événements qui détourneront les malheurs dont la France est menacée. Je veux m'établir dans un lieu moins habité que celui-ci, où le cruel amour de M. de Valorbe ne puisse me découvrir. Il faut se résigner. Les convulsions de la douleur doivent cesser. Je ne serai jamais heureuse, jamais. Eh bien, quand cette certitude est une fois envisagée, pourquoi ne donnerait-elle pas du calme? Hier au soir, cependant, j'ai été bien faible encore. J'avais été moi-même à la poste pour chercher votre lettre que j'attendais déjà le courrier précédent. On me l'a remis, je m'approchai pour la lire d'un réverbère qui est sur la place. Mon émotion fut telle que je fus prête à perdre connaissance. Je m'appuyai contre la muraille pour me soutenir, et quand mes forces revinrent, je vis quelques personnes qui s'étaient arrêtées pour me regarder. Si j'étais tombée morte à leurs pieds, qui d'entre elles en eût été troublée? Qui m'aurait regrettée? Qui se serait donné la peine d'examiner pendant quelques instants si j'avais en effet perdu la vie? Ah, que l'intérêt des autres est nécessaire, et que leur haine est redoutable. Où les fuir? Où les retrouver? Comment supporter leur malveillance? Comment renoncer à leur secours? Que le monde fait du mal, que la solitude est pesante, que l'existence morale, enfin, est difficile à traîner à son terme. Je revins chez moi. Isaure jouait de la harpe. Jusqu'à ce jour, je l'avais priée de ne pas faire de la musique devant moi. Mon âme n'était pas en état de la supporter. Elle rappelle trop vivement tous les souvenirs. Mais votre lettre, ma sœur, me permit d'y trouver quelque charme. J'écoutais mon Isaure, je lui donnais des leçons avec soin, et quand elle fut couchée, je me mis à jouer moi-même. Je me livrai pendant plus de la moitié de la nuit à toutes les impressions que la musique m'inspirait. Je m'exaltais dans mes propres pensées. Je suffisais à mon enthousiasme. Cependant, je m'arrêtais comme fatiguée de cet état dont il n'est pas permis à notre âme de jouir trop longtemps. J'ouvris ma fenêtre et, considérant le silence de cette ville, si animée il y avait quelques heures, je réfléchis sur le premier don de la nature, le sommeil. Il enseigne la mort à l'homme et semble fait pour le familiariser doucement avec elle. Quelle égalité règne dans l'univers pendant la nuit! Les puissants sont sans force, les faibles sans maître, la plupart des êtres sans douleur. Veiller pour souffrir est terrible, mais veiller pour penser est assez doux. Dans le jour, il vous semble que les témoins, que les juges, assistent à vos plus secrètes réflexions. Mais dans la solitude de la nuit, vous vous sentez indépendant. La haine dort, et des malheureux comme vous pourraient seuls encore vous entendre. « Léonce, Léonce !» m'écriai-je plusieurs fois en regardant le ciel. « Le repos est-il descendu sur toi ? ou ton cœur agité cherche-t-il aussi quelques idées, quelques sentiments qui fassent supporter la perte de l'espérance? L'invincible sort s'en va flétrissant toutes les jouissances passionnées. Faut-il leur survivre? Léonce, Léonce, je me plaisais à dire son nom, à le prononcer dans les airs, pour qu'il me revînt d'en haut, comme si le ciel l'avait répété. Tout à coup, j'entendis des gémissements dans une maison vis-à-vis de la mienne. La fenêtre en était ouverte, et les plaintes arrivaient jusqu'à moi qui, seul éveillé dans la ville, pouvait seul les entendre. Ces accents de la douleur me touchèrent profondément. Il me semblait que pour la première fois dans ces lieux, il existait un être qui ne m'était plus étranger puisqu'il pouvait avoir besoin de ma pitié. J'élevai deux ou trois fois la voix pour offrir mes secours. On ne me répondit pas et les gémissements cessèrent. Je demandai le matin qui demeurait dans la maison d'où j'avais entendu partir des plaintes. Et j'appris qu'elle était habitée par une femme âgée et malade qui souffrait pendant la nuit, mais trouvait assez de soulagement pendant le jour, dans les plaisirs de l'existence physique qu'elle pouvait encore supporter. Voilà donc, me dis-je alors, quelle est la perspective de la destinée humaine. Quand les douleurs morales finiront, les douleurs physiques s'empareront de notre âme affaiblie, et la mort s'annoncera d'avance par la dégradation de notre être. Oh, la vie, que de fois depuis que j'ai quitté. Mais on l'interroge en vain. En vain, on lui demande son secret, son but. Elle passe, sans répondre, sans que les cris ni les pleurs, la raison ni le courage puissent jamais hâter ni retarder son cours. Louise, pardon de vous fatiguer ainsi de mon imagination égarée. Mes réflexions me ramènent sans cesse vers les mêmes idées. Je voudrais entendre souvent des paroles de mort. Je voudrais être environnée de solennités sombres et terribles. Ce que je redoute de plus, c'est que ma douleur ne devienne un état habituel, une existence comme toutes les autres, un mal que je porterai dans mon sein et que les hommes me diront de supporter en silence. Adieu. Je croyais avoir repris des forces et je suis retombée. Allons, à demain. Berne, ce 25 décembre. PS. Je n'avais pas fermé cette lettre lorsqu'un accident cruel a failli rendre mon sort encore plus misérable. J'ai appris par un de mes gens que M. de Valorbe venait d'arriver à Lausanne. Heureusement, il n'a pas su que j'y étais. Mais il pourrait le découvrir d'un moment à l'autre. Et la frayeur que j'en ai ressentie ne m'a pas permis d'y rester plus longtemps. Je suis partie à 11 heures du soir. J'ai voyagé toute la nuit. Et je ne me suis arrêtée qu'ici. Se peut-il qu'une destinée sans espoir soit encore poursuivie par tant de craintes? Je vais à Zurich. J'y serai dans 2 jours. Écrivez-moi directement chez Messieurs et Madame de C, négociants. Je leur suis recommandée sous un nom emprunté. Adieu, ma sœur. Je fuis de malheur en malheur, sans jamais trouver de repos. Lettre 6. Monsieur de Valorbe à Monsieur de Montalt. Lausanne, ce 25 décembre 1791. Depuis longtemps, je ne t'ai point écrit, Montalt. À quoi bon écrire? J'ai besoin, cependant, de te parler une fois encore de moi. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un qui m'est connu, qui se rappelle ce que j'étais avant mon irréparable chute. Tu m'as défendu, je le sais, avec générosité, avec courage. Mais que peux-tu, que pouvons-nous l'un et l'autre contre la honte que j'ai acceptée par le plus indigne amour? Madame d'Albémare m'a perdu. Ma réconciliation avec M. de Mondeville est une tâche que toutes les eaux de l'océan ne peuvent laver. Je me suis battue 3 fois avec des officiers de mon régiment. Tout a été vain. Je fuis. Je quitte la France, repoussée de mon corps, ruinée, flétrie, sans espoir, sans avenir. Les lois contre les émigrés vont m'atteindre, mes biens seront saisis, moi-même exilée, poursuivie par des créanciers avides, n'ayant plus de patrie, peut-être bientôt plus d'asile. Et pourquoi tant de malheur? Parce que les larmes d'une femme m'ont attendrie. Parce que ce caractère si dur, me dit-on, si personnel, si haineux, n'a pu résister à la douleur de Delphine. Et cette douleur, elle venait de sa passion pour un autre. C'est mon rival que j'ai épargné. C'est mon rival dont j'ai soigné le bonheur. Et cet heureux Léonce et cette Delphine, qui étaient naguère à mes pieds, marchent aujourd'hui tous deux, insouciants de ma destinée. Sans moi, leur amour était connu. Sans moi, l'opinion s'élevait contre eux. Et parce que j'ai été bon, parce que j'ai été sensible, c'est contre moi qu'elle s'élève. Justice des hommes, c'est par des vertus que je péris. Si j'avais su être dur, inflexible, inexorable, l'estime m'environnerait encore. Et ce serait Léonce, ce serait Delphine qui gémirait dans le malheur. Montalt, je ne sais ce que les nouvelles lois ordonneront sur ma fortune. Je remets entre tes mains ce que tu pourras en sauver. Si je meurs, dispose de ces débris comme de ton bien. Malgré l'exemple général de l'ingratitude, il m'est encore doux d'être reconnaissant envers toi. Je veux découvrir Madame d'Albémare. On dit qu'elle a quitté la France. Je la suis. Je la cherche. Je la trouverai. Si de ton côté tu en apprenais quelque chose, hâte-toi de me le mander. Si j'arrive enfin jusqu'à cette Delphine que j'ai tant aimée, que j'aime encore, elle décidera de mon sort et du sien. Elle verra l'abîme dans lequel elle m'a précipité. Ma santé est détruite. Chacun de mes jours marqué par de nouvelles douleurs. Mes blessures me faisant éprouver encore des souffrances aiguës, toute carrière fermée devant moi et mon nom déshonoré. J'apprendrai si cette femme, d'une sensibilité si vantée, si ce caractère si doux, cette bienveillance si générale, rempliront les devoirs de la plus simple reconnaissance. Certes, quelle est la femme qui se croit permis d'hésiter si elle voyait devant elle l'infortuné qui, par un sacrifice inouï, lui a immolé jusqu'à son honneur même. L'homme qu'elle aurait réduit à fuir son pays, à renoncer à sa fortune, à braver toute la rigueur des lois et toutes les souffrances de l'exil. Si elle le voyait, à ses genoux, lui offrant un cœur que tant de peines n'ont pas aliéné, ne lui reprochant rien, n'écoutant encore que l'amour qu'il a perdu, la suppliant de céder à cet amour, de partager son sort, de colorer les dernières heures de sa destinée. Je ne sais quelle âme il faudrait avoir pour repousser cette dernière prière. Madame d'Albémare la repoussera cependant, je le prévois. Des expressions douces, de la pitié, des protestations compatissantes, c'est là tout ce que j'obtiendrai d'elle. Et grâce à cette douceur de manière, à cette pitié qui n'oblige à rien, lorsqu'elle aura causé ma mort, c'est moi que l'on accusera. C'est moi dont on blâmera la violence, dont on noircira le caractère. Et tous ces hommes qui m'ont sacrifié, qui ont disposé de moi par calcul et sans scrupule, comme d'un accessoire dans leur vie, comme d'un être insignifiant et subalterne, ces hommes me condamneront. Non, Montalt, il ne sera pas dit que ma vie aura toujours été la misérable conquête de quiconque aura voulu s'en emparer. Il ne sera pas dit que le sentiment irritable mais profond, mais souvent généreux qui me consume, aura toujours été habilement employé et constamment méconnue. Je la vaincrai, cette faiblesse, cette timidité douloureuse qui me jette à la merci même de ceux que je n'aime pas, et qui, devant celle que j'aime, a fait taire jusqu'à mon amour. Je veux que Delphine soit ma femme, je le veux, à tout prix. Elle s'est servie de mon caractère, elle m'a trompée par son silence, elle m'a subjuguée par sa douleur. Mais quand il s'est agi de Léonce et de moi, elle n'a pas même daigné me conter. Elle croit sans doute que la même générosité, la même faiblesse me rendront toujours impossible de résister à ses larmes. Je mourrai peut-être, tout me l'annonce. La vie m'est à charge. Mais avant de mourir, je ferai revenir Delphine de l'idée qu'elle s'est faite de son ascendant sur moi. Quand je serai ce que les hommes se sont toujours plu à me supposer, quand je pourrai braver leurs souffrances, fermer l'oreille à leurs prières, ils sentiront le prix des qualités dont ils usaient avec insolence, sans les reconnaître ou en savoir gré. Sans doute, il serait plus commode de déplorer un instant ma perte pour m'oublier ensuite à jamais. Delphine trouverait doux de verser quelques larmes sur ma tombe, de se montrer bonne en me plaignant quand elle n'aurait plus à me craindre. Mais je ne puis me résoudre à mourir aussi facilement que mes amis se résigneraient à me pleurer. Delphine m'appartiendra. Crime aux vertus, haine ou amour, sympathie ou cruauté, tous les moyens me sont égaux. Je tirerai parti de ses fautes. Je profiterai de ses imprudences. J'encouragerai l'opinion qui déjà menace son nom, trop souvent répété, et qui, comme toujours, s'arme contre elle de ce qu'elle a de meilleur et de plus noble dans le caractère. Je l'entourerai de mes ruses, je l'épouvanterai par mes fureurs. Dans l'état où l'on m'a réduit, quels scrupules pourraient me rester encore? Les scrupules ne conviennent qu'aux heureux. Mon dessein d'ailleurs est-il si coupable? Je veux l'obtenir, mais c'est pour lui consacrer ma vie. Je veux m'emparer de son existence, mais son empire sur moi n'a-t-il pas détruit la mienne? Si je puis l'attendrir, le bonheur m'est encore ouvert. Si elle est inflexible, je veux la punir, je veux me venger. Cependant, Montalt, crois-moi, je ne suis pas encore l'homme féroce que cette lettre semble annoncer. Oh, si je retrouve un cœur qui me réponde, si l'estime d'un être sensible vient relever mon âme flétrie, si quelque ombre de justice envers mon malheureux caractère me donne l'espérance qu'on n'en profitera pas toujours pour l'opprimer en le calomniant, si Delphine, touchée de mon sort, s'accusant de mes maux, consent à s'unir à moi, je puis renaître à la vie, je puis reprendre aux sentiments doux, je puis être heureux sur cette terre. Cet ange de paix, de grâce et de bonté me consolera de tous les revers. Adieu, Montalt. Pardonne-moi ce long délire et ces contradictions sans nombre, et les mouvements opposés qui m'agitent et qui me déchirent. Tu m'as connu. Tu sais si la nature m'avait fait dur ou barbare. Pourquoi les hommes m'ont-ils irrité? Pourquoi n'ont-ils jamais voulu me connaître? Pourquoi n'ai-je trouvé nulle part un seul être qui m'appréciât ce que je vaux? Ne m'as-tu pas vu capable de dévouement, d'élévation, de tendresse et de sacrifice? Mais lorsque, dans tout le cours de sa vie, on se voit puni de ce qu'on a fait de bon, lorsqu'il est démontré que, dans chaque événement, c'est un mouvement généreux qui a donné prise à l'injustice, qui peut répondre de soi? Quel caractère ne s'aigrirait pas? Quelle morale résisterait à cette funeste expérience? Quoi qu'il arrive, garde le silence à jamais sur moi. Je ne veux pas que les hommes s'intéressent à ma destinée. Je ne veux pas me soumettre à ces juges plus personnels, plus égoïstes, plus coupables cent fois de celui qu'ils osent juger. Sois heureux si tu peux l'être. Arme-toi contre la société, contre l'opinion. Contre ta propre pitié surtout. Tout ce que la nature nous donne, de délicat ou de sensible, sont des endroits faibles où les hommes se hâtent de nous frapper. Lettre 5. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Zurich, ce 28 décembre. Je crois avoir trouvé enfin l'asile qui me convient. À 6 lieues de Zurich, sur une rivière qui se jette dans le Rhin, il y a un couvent de chanoinesses religieuses, appelé l'abbaye du Paradis, où l'on reçoit des femmes comme pensionnaires. Leur conduite est soumise à l'inspection de l'abbesse. Elles ne peuvent sortir sans son consentement, quoiqu'elles ne fassent point de vœux. Ces sortes de pensionnaires s'appellent des donnés. La manière de vivre dans ce couvent est régulière sans être pénible. Il y a moins de sévérité dans les statuts de cette maison que dans la plupart de celles du même genre. Mais on est difficile sur le choix des personnes qui peuvent y être admises, et c'est une retraite très honorable pour les femmes qui y sont reçues. Je dois y aller demain matin, et je vous manderai si je puis m'y établir. J'éprouve une impatience singulière de me trouver enfin une demeure fixe, une existence uniforme. Chaque objet nouveau réveille en moi le même souvenir et la même douleur. Ce 29. Louise, l'auriez-vous prévu? L'abbesse de ce couvent, c'est Madame de Ternan, la sœur de Madame de Mondeville, la tante de Léonce. Elle s'appelle Léontine. C'est elle qui tient son nom. Elle lui ressemble, quoiqu'elle ait 50 ans. Il y a eu des moments, pendant notre longue conversation, où ses rapports de figure et de voix m'ont frappé jusqu'au point d'en tressaillir. Elle a, dans sa manière de parler, cet accent un peu espagnol, qui donne, vous le savez, tant de grâce et de noblesse au langage de Léonce. Je ne pouvais me résoudre à m'éloigner d'elle. J'essayais 1000 sujets différents, dans l'espoir d'en découvrir un qui pût animer assez Madame de Ternan pour donner à ses mouvements plus de jeunesse, plus de ressemblance avec ceux de Léonce. Je n'ai point cherché à connaître le caractère de Madame de Ternan. Ses gestes, ses regards m'occupaient uniquement. Je lui ai témoigné le plus grand désir de me fixer dans sa maison, sans que rien en elle m'ait fortement attiré, si ce n'est les traits de son visage et les accents de sa voix qui rappellent Léonce. Elle a consenti à ce que je désirais. Elle m'a promis le secret sur mon véritable nom et m'a accueilli très poliment, quoique avec un mélange de hauteur qui rappelait ce qu'on m'a dit du caractère de sa sœur. Elle m'a paru avoir de l'esprit, mais celui d'une femme qui a été très jolie et dont les manières se composent
de la confiance qu'elle avait autrefois dans sa figure
et de l'humeur qu'elle a de l'avoir maintenant perdue. Rien en elle ne peut expliquer pourquoi elle s'est faite religieuse, et quand elle cause, elle a l'air de l'oublier tout à fait. On m'a dit cependant qu'elle était très sévère pour la manière de vivre des pensionnaires qu'elle admettait chez elle, et que toute sa communauté avait en général un grand esprit de rigueur. Quoi qu'il en soit, je veux m'établir dans ce couvent, que m'importe plus ou moins d'exigences. J'en ai rien à faire qu'à me dérober, s'il est possible, aux sentiments douloureux qui me poursuivent. Madame de Ternan obtiendra de moi ce qu'elle voudra. Elle ne se doute pas de l'empire qu'elle a sur ma volonté. J'irai au bout du monde pour la voir habituellement. J'apprendrai en vivant avec elle tous les mots qu'elle prononce comme Léonce, toutes les impressions qui fortifient les traces de sa ressemblance avec lui, et je chercherai à faire reparaître plus souvent ses traces chéries. Oh Léonce, me voilà un intérêt dans la vie. J'aimerai cette femme quels que soient ses défauts. Je la soignerai pour qu'elle écrive une fois à votre mère que j'étais digne de vous. Je ne serai pas séparée tout à fait de ce que j'aime. Un rapport, quelque indirect qu'il soit, me restera encore avec lui. Et quand dans quelques années, je pourrai lui faire connaître ma retraite, lui raconter les jours que j'y ai passés, il sera touché des sentiments qui m'auront tout entière occupée. Ma sœur, votre dernière lettre m'a profondément attendrie. Ne vous affligez pas tant de ma situation. Elle vaut mieux, depuis que j'ai choisi une retraite, depuis que j'ai pu, loin de Léonce, retrouver encore quelques liens avec lui. Lettre 6. Delphine à Mademoiselle d'Albemar, Zurich, ce 31 décembre. Je viens d'éprouver une émotion très vive, ma chère Louise, et je ne sais si je me suis bien ou mal conduite dans une situation où des sentiments très opposés m'agitaient. La maison que j'habite ici est près de celle de Madame de Serlève, une femme que tout le monde vante à Zurich et qui m'a paru en effet très aimable. J'étais recommandée par des négociants de Lausanne à son mari. Je l'ai vue tous les jours. Elle m'a montré plusieurs fois l'empressement le plus aimable et elle voulait m'emmener avec elle à la campagne où elle demeure presque toute l'année avec son père et ses enfants. Hier, j'allais la remercier et prendre congé d'elle. Une impression d'inquiétude altérait la sérénité habituelle de son visage. « J'ai chez moi, me dit-elle, depuis 4 jours, un Français qu'un de mes amis de Lausanne m'a prié de recevoir et dont il me dit le plus grand bien. Le pauvre homme est tombé malade en arrivant des suites de ses blessures, et je crois aussi que quelque chagrin secret lui fait beaucoup de mal. » Troublée de ce qu'elle me disait, je lui demandai le nom de cet infortuné. « Monsieur de Valorbe, reprit-elle. » Sans doute mon visage exprimait ce qui se passait en moi, car Madame de Serlève me saisit la main et me dit « Vous êtes Madame d'Albémar. Je le soupçonnais déjà, j'en suis sûre à présent. Vous allez rendre la vie à Monsieur de Valorbe. Il vous nomme sans cesse. Il prétend qu'il doit vous épouser, que vous le lui avez promis. Il mourra s'il ne vous voit pas. » Je me taisais. Madame de Serlève continua le récit des souffrances de Monsieur de Valorbe et les preuves continuelles qu'il donnait de sa passion pour moi. Et tout en me parlant, elle se levait et marchait vers la porte, comme ne doutant pas que je ne la suivisse pour aller voir Monsieur de Valorbe. Comment vous rendre compte de ce qui se passait en moi? Si je n'avais jamais eu aucun tort envers Monsieur de Valorbe, si ce silence qu'il n'a point oublié ne lui paraissait pas une sorte de promesse, peut-être aurais-je été le voir. Mais tel est le malheur d'un premier tort qu'il vous force absolument à en avoir un second, pour éviter l'embarras cruel du reproche. Je ne savais d'ailleurs comment parler à M. de Valorbe. Certainement, sa situation m'inspirait beaucoup de pitié. Mais si j'exprimais cette pitié dans des termes vagues, n'exalterais-je pas ses espérances? Et si je la restreignais par des expressions positives, ne le blesserais-je pas profondément? Je ne connais rien de si pénible que de voir un homme malheureux lorsqu'on éprouve un sentiment intérieur de contrainte qui oblige à mesurer les paroles qu'on lui adresse avec un sang-froid presque semblable à la dureté. J'éprouvais enfin une répugnance invincible pour aller dans la chambre de Monsieur de Valorbe. Autrefois, je l'aurais vaincu, cette répugnance. Mais je souffre depuis si longtemps que j'ai peut-être perdu quelque chose de cette bonté vive et involontaire qui m'entraînait sans réflexion, et souvent même malgré mes réflexions. Je refusai Madame de Serlève. Elle s'en étonna et n'insista point. Mais seulement elle me demanda assez froidement la permission de me quitter pour aller voir dans quel état se trouvait Monsieur de Valorbe. Je fus fâchée d'avoir été désapprouvée par Madame de Serlève, car je me sens un véritable penchant pour elle, depuis le peu de temps que je la connais. Je descendis lentement son escalier, hésitant toujours, mais toujours animée par le désir de m'éloigner. Quand je fus à peu de distance de la porte, je m'arrêtai, et je vis à la fenêtre une figure presque méconnaissable. Ses regards me parurent fixés sur moi. Je fis quelques pas pour retourner, mais l'idée de Léonce me vint. Je pensais que s'il était là, il me retiendrait. Je levai les yeux vers la fenêtre. Il me sembla que le visage de Monsieur de Valorbe exprimait, en me voyant approcher, une joie tout à fait effrayante. Un sentiment de crainte me saisit, et je retournai chez moi sans m'arrêter. « J'ai besoin de savoir, ma sœur, si vous me condamnerez ou si vous m'excuserez. Je me retirerai demain dans un asile où personne, du moins, ne pourra plus prétendre à me voir. » Lettre 7. Monsieur de Valorbe à Monsieur de Montalt. Zurich, le 1er janvier 1792. Je me trompais, Montalt, lorsque je vous écrivais que Madame d'Albémare aurait au moins avec moi des formes polies et douces. Elle n'a pas même voulu s'en donner la peine. Elle a été dans la même maison que moi, sans daigner me voir. Elle me savait malade, mourant pour elle, et quelques pas qui l'auraient amenée près de mon lit de douleur lui ont paru un effort trop pénible. Je l'ai vue hésiter, revenir, et céder enfin à l'impitoyable sentiment qui lui défendait de me secourir. Je ne sais pourquoi je m'accuse quelquefois. Ce sont les autres qui ont toujours eu tort envers moi. C'est Delphine qui est barbare. Il faut qu'elle en soit punie. La nature aussi s'acharne sur ma misérable existence. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas me soutenir. Je me sens une irritation inouïe, même contre les objets physiques qui m'environnent. Une chaise qui me heurte, un papier que je ne trouve pas, une porte qui résiste, tout me cause une impatience douloureuse. Que de maux sur la terre sont destinés à l'homme? Il faut les dompter. Je sortirai, je trouverai celle qui n'a pas voulu me voir. Aucun asile ne la soustraira à ma volonté. Les souffrances que j'éprouve m'agitent au lieu de m'abattre. Delphine, vous regretterez l'indigne mouvement qui vous a, pour jamais, privé de tous vos droits à ma pitié.